point, il est intéressant de ce que vous posez là, parce que c'est exactement la machine du conte. C'est-à-dire que vous mettez une image qui vous paraît complètement neutre, il tombe à genoux, et ça réveille tout un réseau de connexions qui font sens, voilà, et qui pour certains vont prendre la chrétienté, pour d'autres vont être dans la... Et je pense que c'est ça la force du conte, c'est qu'ils sont vraiment polysémiques par définition, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui faites le sens. Et le conte qui est vraiment respecté, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va réveiller, et on l'a vu tout ce matin avec Bernard Sergent, des vieux archétypes extrêmement profonds qu'on a de façon interne très 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 profondément ancrés, voilà, mais quelque part, ils ne vont pas vous donner de clé pour le fermer. C'est vous qui l'ouvrez là où vous avez envie de l'ouvrir, cet endroit. Et c'est vrai que bon, la chrétienté, c'est quelque chose qui s'appuie sur des archétypes beaucoup plus vieux que la chrétienté, hein. Voilà. Moi, dans mon travail d'ethno, les premières années avec Viviane Aprac, vous voulez connaître la culture des autres, connaissez d'abord la vôtre. Analyse de la Bible, Ancien Testament. Tant qu'on n'a pas une analyse complète là-dessus, on ne travaille pas sur les autres cultures. Ben, je peux vous dire que quand on fait ce travail-là, on s'aperçoit que tous les archétypes occidentaux, tous les archétypes sont dans la Bible, en permanence. Comment?
Est-ce que les évangiles, c'est pas un conte merveilleux?
Oui, alors là, il faudrait que moi je rentre dans un autre positionnement. C'est-à-dire que pour moi, dans la littérature orale, il y a le conte merveilleux, le conte facétieux, le conte de sagesse, les contes, il y a la légende, etc. Il y a des multiples facettes. Voilà. Et quelque part, c'est évident que même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des épopées, il y a du conte merveilleux, il y a tout ça. Voilà.
Il y a une question de Patrick. Demande à Hélène, est-ce qu'Hélène peut nous reconstituer la fin de l'histoire avec la mère?
Alors, donc la mère, en fait, quand Jean vient l'inviter, elle refuse de venir. Et le jour prévu du mariage, elle va devant la grotte de son époux ours, qui est décédé là. Elle ramasse des fleurs des champs et elle le remercie de lui avoir donné un fils si puissant, si courageux, qui va donner beaucoup de puissance et de force à tout son peuple. Voilà. Et c'est vrai que ce conte, moi je fais un petit parallèle qui n'a rien à voir avec de l'analytique, mais moi chaque fois, il m'hérisse le poil. Alors pour Jean de Lourdes, je trouve ça déjà pas mal.
Mais non, moi, je vais juste citer un vieil ami qui
sur les
s'appelle
Pierre Hérouilleux. Et moi, j'ai travaillé sur les histoires de femmes de la Bible. Et il nous disait, la religion des uns, c'est le mythe des autres. Oui, et il trouve tout à la de Pierre.
Voilà. Oui, tout à fait. Ah, oui.
La mythologie chrétienne.
Ouais, voilà. Non, après, c'est simplement comment dire, des outils d'analyse. Dans la Bible, par exemple, si on prend certains textes, c'est vraiment il faut partir avec les outils de l'épopée. Si on veut prendre d'autres textes, c'est vraiment partir sur les outils du mythe. Voilà. Si on prend d'autres éléments, voilà, il y a vraiment chaque fois, c'est simplement pour ne pas se planter. Parce que si on prend ça au niveau littéraire ou anecdotique, ça ne nous dit rien, la Bible. On n'a pas l'accès à ce qui est vraiment profondément ancré.
Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, quand même, Jean de Lourdes, il est beaucoup plus ancien que la
Oui,
Bible, et il remonte au temps des Volsces arécomiques, hein, et il remonte au temps de on en parlait à midi, des Celtes, des Gaulois de la Narbonnaise, donc tous ces gens qui vénéraient les éléments, l'eau, les animaux, la montagne, les arbres, etc. Donc on est bien au-delà de la chrétienté, et en même temps, ça prouve à quel point nous sommes marqués par cette chrétienté. Donc pour moi, c'est vraiment un mythe parce qu'on y croit même inconsciemment. Et on va la mettre en filtre à chaque fois sur des choses où c'est pas forcément ça fait toujours écho. Et on se reprojette tout le temps dans cette mythologie chrétienne.
Justement, dans le plan de l'historicité du récit, si vous lisez le bouquin, le gros pavé, la thèse qu'il nous a fait sur Jean de Lourdes, toute la thèse est faite pour démontrer que Jean de Lourdes est un récit pré-indo-européen. C'est-à-dire avant même que les Indo-Européens partent de la région caucasienne pour se répartir dans l'Inde et dans notre région, ce récit existe en Pays basque. Les Pays Basques, qui est un isolat, en fait. Hein, voilà. C'est très particulier.
Il y a une question, enfin, une remarque de Matao Rono. Oui. On a évoqué le don de la Christ. Il y a aussi un autre don qui est là. Est-ce que le don de la Christ n'est pas une métaphore du autre partie du corps proche de même?
Alors, je ne sais pas, mais j'ai quelque chose qui me vient là au moment où on en parle, sortir de la cuisse de Jupiter, hein, on se retrouve avec Bacchus. Certains disent que Bacchus, donc Dionysos, viendrait d'Inde et représenterait après le Christ avec le sang du Christ et le vin, etc. Donc, je ne sais pas, mais il y a ce retour, on parlait de… d'Héraclès avec la mythologie grecque. Donc, il peut y avoir des références à cette cuisse, hein, parce que finalement, Jupiter, il a porté dans la cuisse.
C'est toute la complexité, en fin de compte, de ces récits-là qui puisent dans des fonds archéologiques, mythiques, mais qui ne viennent pas, qui sont eux-mêmes des emprunts. On sait très bien que les Grecs ont énormément puisé chez les Indiens, chez les Perses. C'est un espèce de mélange constant. Voilà, et donc on arrive à des synthèses qui se font différemment des uns vers les autres. On en parlait venir, je lui disais, ça serait bien que vous veniez nous parler un jour des Indo-Européens. C'est intéressant de comprendre que les Indo-Européens, sur le plan de vie, on n'a qu'une langue indo-européenne. On ne sait pas s'il y a eu des Indo-Européens en tant que peuple. On sait qu'il y a une langue qui est reconstituée et qui existe. Voilà. Mais on sait très bien que tous ces gens qui sont partis à peu près de la région caucasienne au Sumer Noir, hein, et qui ont filtré donc, certains vers l'Inde, d'autres vers ici, ont tous rencontré d'autres cultures sur leur chemin. C'est-à-dire que les Germains ont rencontré toutes les cultures des runes. Donc les Celtes ont rencontré d'autres, les Grecs ont rencontré tout ça. Ce ne sont que des gens qui ont la même source linguistique, donc sûrement qui viennent à peu près du même endroit. Je ne cause à rien. Voilà. Mais chacun a recomposé des croyances qui pouvaient être des croyances de base avec ce qu'ils ont rencontré. Ils ont fait du syncrétisme. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a des résonances de chacun de ces mythes-là qui sont tous plus ou moins liés, mais en même temps, il y a des différences et il ne faut pas les oublier non plus. C'est-à-dire que les évolutions sont aussi extrêmement importantes autour de ces cadres-là.
Tout à fait. Et il y a aussi, juste que je voulais préciser, il correspond au temps de la déesse mère, Jeanne de l'Ours, au temps de la lune, donc la lune, les fameuses ronces, les fameuses mûres, le temps de la naissance, etc. Et on voit le rôle des femmes, là, qui se trament derrière tout ça. Et donc, c'est encore plus ancien. Donc, on dit, on remonte à l'origine des temps. S'il y en a bien un qui remonte à l'origine des temps, de compte, c'est celui-là, quoi. Donc, ça, et après, il a évolué. On voit très bien, nous, inconsciemment, comment on fait. On va projeter la chrétienté dessus. Mais à l'époque, ils ont projeté ce dans quoi ils étaient. Et donc, ça rejoint ce que dit Marc au niveau de tous ces apports culturels, mythologiques et compagnie.
Question de Ludivine Enoch qui dit « Bonjour Hélène, merci pour votre touchant témoignage. Comment lisez-vous le fait que la mère de Jean de l'Ours refuse d'assister à son mariage ?»
Je trouve ça formidable. Et moi, ça m'a donné une grande leçon pour être mère, c'est de favoriser l'autonomie de nos enfants. Une fois qu'ils se sont envolés du nid, à contrario de ce qu'on disait, une fois qu'ils sont envolés du nid, leur faire confiance pour qu'eux, à leur tour, créent leur monde sans être derrière, etc. Et je trouve que c'est moi le plus beau passage, c'est cette fin où elle reconnecte avec cette ours en gratitude. Donc, c'est les ancêtres, c'est la mémoire, c'est le transgénérationnel. Pour le remercier d'avoir mis une progéniture qui va à son tour continuer un monde meilleur, hein, parce qu'on a besoin de monde meilleur aussi, le futur est là aussi. Et c'est cette humilité de cette mère qui a tout donné et qui accepte de lâcher, et je trouve ça, waouh, avec un bouquet de fleurs sauvages. Donc ça, c'est fabuleux.
Le refus d'être belle-mère.
Et mais toujours disponible, et toujours là. Et voilà.
C'est une plaisanterie. Yacine, derrière.
En ce qui concerne le petit être à tête plate, ou après ça peut être une sorcière, ou en termes symboliques, ou en termes, parce que il est un peu l'intermédiaire des fois, ou il y a une personne qui va montrer sans montrer, en fait c'est quoi sa fonction, comment est-ce qu'on peut comprendre son intervention ou en termes d'archétype, qu'est-ce qu'il pourrait représenter? Est-ce que c'est une part de la masculinité? Est-ce que c'est un complément? Est-ce que c'est une partie de l'enfance? Est-ce que...
Alors, moi, je pense que c'est... Dans ce conte, c'est très bien que ce soit un petit homme à tête plate et pas une sorcière. Je ne vois pas trop le rôle de la sorcière là-dedans. Parce qu'en fait, c'est la part de ces deux grands gaillards-là qui, intérieurement, parce que c'est le troisième des Lascar, hein, ce petit homme à tête plate, qui intérieurement sont forts, mais à l'intérieur sont tout petits. Ils sont tout petits et voilà, il y a ce côté de la petitesse, du petit, la petite personne qui va avoir des pouvoirs avec sa baguette de coudrier, et donc il se sent invincible lui aussi. Donc c'est pour ne pas être dupe de tout ça. Je pense que c'est un aspect de plus, c'est ma version, mais ça me parle fort, de Jean de l'Ours. Une autre version de lui-même, quoi. Et il arrive justement avec intelligence à s'adapter à chaque version pour traverser tout ça et finir par se retrouver dans cette connexion profonde à lui-même.
Je ne sais pas, je le ressens peut-être un peu différemment, peut-être pas si loin, mais pour moi, c'est vraiment l'énergie maléfique, quoi, qu'on a tous en nous, celle qui vient nous amener à faire des choses des fois qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, quand on les a fait, on ne se sent pas très bien, mais on les fait quand même. Voilà, donc il y a une espèce de quelque chose qui vient gratter, quoi, là où ça fait mal. Voilà. Moi, je comprends que les deux autres, ils ne puissent pas, parce qu'ils ne savent pas le maîtriser, ça. Quoi. Le genre de l'ours, il peut commencer à savoir maîtriser ça.
Okay, d'accord.
Ridicule, le petit, de digesticule, quelque chose de ridicule. Voilà, ridicule, c'est le mot qui m'est un peu absurde. Il est petit, il a la tête plate, quelque chose de pas crédible quelque part. On ne comprend pas au sérieux. Il est petit, il a la tête plate.
Et pourtant, il est très
bien. Pourtant, voilà. L'idée, c'est
il y a une image. Il y a une image pulsionnelle derrière. Il y a quelque chose dedans de la pulsion. De la pulsion vraiment qui bon, il n'y a pas de cerveau dans la pulsion. On y va, quoi. Hein?
En plus, il est complètement impuissant. Quoi.
Il est
impuissant. Apparemment, il est impuissant.
Mais sa force, c'est qu'il déstabilise les gaillards parce que justement, il le trouve ridicule et tout petit. C'est un peu le petit saboteur intérieur, quoi. Tout petit mais méchant. Donc, si on n'en prend pas garde, il va prendre les commandes. Et il en prend souvent, trop souvent, les commandes, d'ailleurs.
Peut-être pour rester sur cette phase, bon, il y a quelque chose, c'est Seigneur qui m'avait intéressé dans la lecture. C'est justement le fait que le puits pour descendre dans le monde souterrain soit adossé à la cheminée. Par rapport à ce qu'on disait ce matin. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment un axe vertical qui va vraiment du ciel en dessous de la terre. On est vraiment sur cette continuité. Alors on en parlait ce matin avec justement le dénicheur d'oiseaux, hein, et cette problème d'inversion. Là, il y a les deux carrément. On est vraiment sur les deux, mais il prend d'abord celui qui est en dessous. Hein, il descend. Il aurait pu monter dans la cheminée, pourquoi pas. Hein, et Seigneur, il est très fin dans ces images-là, dans ses propositions. Il sait très, très bien mettre en route des... Moi, j'ai eu la chance de connaître Seignol dans ses bouquins, mais surtout par quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, qui s'appelle Gérard Latier, qui est un plasticien un peu fou, voilà, et qui était un grand correspondant avec Seignol. En échange de lettres, une fois, j'ai eu la chance de pouvoir lire les lettres. Et c'est vraiment quelqu'un, il était toujours en train de réfléchir sur les motifs qu'il mettait en œuvre sur ses comptes. Hein. C'est jamais gratuit, quoi. Ça a été toujours de quelque chose de très pensé, mine de rien.
Il y avait une question.
Patrick Séris, encore une petite question, dit-il. Si possible, dans la version d'Hélène, qu'est-ce qui est de Hélène? Qu'est-ce qui est de la version de Seignol? Y a-t-il eu des transformations?
Alors, je l'ai fait ce compte il y a plus de 30 ans. Donc, je l'ai récupéré en tant que conteuse. Donc, il y a beaucoup de la part de Seignol. Et comme je l'ai dit, quelques bribes de contes que j'avais pris dans le Languedoc. Mais je suis restée quand même fidèle à la trame. Donc après, je l'invite à aller lire Claude Seignol pour vérifier par lui-même. parce que voilà, avec le temps, les choses se sont patinées, mais je suis restée très proche de la version. Et voilà.
On joindra au compte-rendu la version de Seyol, les oreilles en bois.
Mais il y a des versions aussi qui viennent d'autres. Je crois qu'il y a de Jean Marcal aussi, je ne sais plus. Enfin, c'était il y a longtemps sur la version du Languedoc. Et ce qui est très intéressant dans cette version aussi, c'est que quand ils plongent dans le puits, ils montrent qu'ils sont forts, mais au début, le premier, il tire la corde pour dire « montez-moi, hein, parce que j'ai trop peur ». Et le deuxième, il est tellement effrayé qu'il tombe dans les pommes, il est tout blanc. Donc, la corde ne bouge plus. Et il appelle, il ne répond pas, ils sont obligés de le remonter à bras le corps. Et il est très, très lourd. Donc, il y a tous les efforts qu'ils font pour aller remonter ce grand gaillard qui est tombé dans les pommes de peur. Hein. Et c'est là que Jean de Lourdes décide d'y descendre par lui.
Toujours de Matao, tête plate est une insulte utilisée dans Cyrano de Bergerac. Tête plate est une insulte utilisée dans Cyrano de Bergerac. Insulte occitane, point d'interrogation.
Alors là, j'ai pas la réponse, hein, je sais pas.
À rechercher.
Oui. Ben oui, c'est ça. Hein.
Je crois que c'est plus général que l'occitan. Bon, après, moi, ce conte, il m'a toujours interrogé, en tous les cas, sur la part initiatique en tant que tel. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Il y a un endroit qu'on n'a pas abordé, ça m'étonne d'ailleurs, parce que le sujet, c'est quand même le fait du fameux viol de la femme par l'ours.
Ah, dans ma version, ce n'est pas un viol.
Voilà. Mais dans la plupart des versions, c'est le cas. Voilà. Et donc, on est vraiment dans un espace où c'est intéressant aussi. Et là, ça rajoute un domaine qu'on n'a absolument pas abordé, c'est tous les carnavals existants autour de l'ours et de Jean de l'ours en particulier. Donc, le côté calendaire qui va avec ce mythe-là. Hein. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 mois de ça, Arles-sur-Tech, a été classé à l'UNESCO donc comme étant comme patrimoine universel mondial. Voilà, et c'est quand même encore des carnavals qui sont extrêmement, enfin des rituels, puisque des carnavals qui sont vraiment encore très vivants. Il y a trois lieux au moins dans les Pyrénées-Orientales où on rejoue le 2 février le rite qui correspond à Jean de l'Ours, mais surtout à cette première phase de Jean de l'Ours. C'est-à-dire l'ours qui enlève la femme et qui va donc qui va être dans cette relation. Donc là, pour moi, c'est encore une autre part du mythe, c'est-à-dire c'est la part de la croyance entre le fait qu'un ours peut enfanter avec une femme. Et c'est pas rien, que ça correspond aussi à tout un espace qu'on va retrouver dans le monde entier. Aller revoir les mythologies amérindiennes, aller revoir les mythologies sibériennes, etc. Cette croyance, elle est extrêmement répandue. Ça va donner des rituels autour de nous. Toute l'ours en tant que tel est un animal extrêmement important dans la plupart des cultures. En Chine, depuis le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, on nous parle d'empereurs qui veulent manger des pommes d'ours, des mains. Voilà. Parce que quelque part, on a pensé longtemps que l'ours se nourrissait en léchant sa pomme. Donc il y avait derrière toute une croyance plus ou moins dans le fait qu'on pouvait devenir éternel et en manger, ça serait encore mieux. Quoi. Donc cette croyance, on va la retrouver en Grèce, on va la retrouver en Chine, on va la retrouver en Sibérie, on va la retrouver chez les Amérindiens. Voilà. Donc on a vraiment tout un espace où l'ours, pour certains Amérindiens, c'est le père des hommes, c'est l'ancêtre. D'accord,
voilà. C'est le poilu.
Bien sûr, c'est le poilu, c'est l'homme sauvage.
Il a dit voilà. La femme séduite. Mmh. Qui peut avoir envie aussi de cet homme-là, puissant, vraiment.
On est vraiment sur l'hyper-fertilisant, pour aller dans des termes de puissance sexuelle par excellence. D'accord. Donc il y a vraiment toute cette croyance qui est en jeu aussi derrière cette rencontre, c'est-à-dire le transmetteur de la force, transmetteur de mais en même temps, donc tu parlais de l'animalité, mais il y a plus que l'animalité, il y a vraiment toute la régénération qui est derrière, hein, qui est extrêmement importante. Il faut penser que c'est aussi un animal qui hiberne. Donc dans le cycle, c'est extrêmement important. Hein. Voilà, c'est le jour de la Saint-Martin qui rentre dans sa grotte. Il en ressort le 2 février Saint-Blaise. Hein, voilà. Et donc, on est sur un calendrier qui correspond à l'hiver, le printemps, l'arrivée. Donc, on a derrière ça, je vous conseille d'aller, on vous donnerait les clés pour l'héroïne Gagnevé, par exemple, hein, qui a fait un gros travail sur le calendrier dans ce sens-là. Voilà. Mais quelque part, c'est un...